mettre en route.
Voilà, on peut y aller. Alors, vous voulez bien me rappeler votre nom et votre prénom ?
Alors,
c'est un nom courant dans la région ?
Ah oui, très très courant.
D'accord. Et vous êtes né quand ?
Ah, 1912. Le 30-12-1912.
Oh, c'est pas drôle d'être né trop proche de Noël. Et ça vous fait quel âge ?
93.
C'est un bel âge. Vous êtes le doyen, je crois, du village.
Ah oui, oui, oui.
C'est ce qu'on m'a dit, que j'avais la chance de pouvoir interroger le doyen. Donc j'espère que vous me raconterez des choses sur le village après. Vous êtes né à Augéville ?
Non, c'est un pays à 2 kilomètres. Mais je suis venu ici, j'avais 8 jours, alors.
Oh, bah alors. Il y a beaucoup de gens comme ça. D'habitude, ils sont nés à Lunéville et ils sont venus 8 jours.
Oui, ils reviennent, oui. Ben, moi, ça a été la même chose, mais il n'y avait pas de maternité en ce temps-là.
Oui.
Moi, les femmes accouchaient à la maison. Hein. Alors, ma mère avait un petit logement, elle voulait accoucher dans son logement. Parce qu'ils avaient acheté une grosse maison, la voisine d'ailleurs. Et elle dit, quand j'aurai accouché, on ira là-bas. Alors, 8 jours après, elle était debout, mais ils sont venus s'installer ici.
D'accord.
Ça fait que je suis augévillois de toujours, quoi.
Et vous avez toujours habité au Géville et vous avez jamais quitté.
Mais, si, j'ai quitté. Bon, si, j'étais militaire de carrière.
J'ai
habité Grenoble, Marseille, Strasbourg,
à
Paris,
chaque fois.
Versailles.
Ouh.
Bon, ouais. Dans une carrière militaire, on en fait du chemin.
Oui, c'est vrai. Et puis toujours pour des périodes de 2 ou 3 ans, c'est ça ?
Ben, des fois plus, des fois moins. Hein.
Oui.
Il y a un pays où j'ai resté longtemps, c'est un petit pays, pas de Lunéville. Je suis resté 30 ans, là.
Oh, bah oui. Comment vous écrivez ça ? Oui. Bah dis donc.
Ma femme est institutrice dans ce patelin, là.
D'accord. Donc. Et donc, vous avez été militaire de carrière dans quel corps de...
Au génie.
Ah. Et ça consiste en quoi, exactement ?
Le génie, sont plutôt des ouvriers que des combattants, vous savez.
Oui.
Ah oui. Les constructions et des destructions, surtout. Faire sauter les ponts, tout ça, c'était nous.
Vous avez dû faire la guerre, du coup ?
Bah oui, oui, je suis un combattant.
Ouais. Vous étiez militaire pendant la guerre aussi.
Ah bah oui, oui.
Ouais.
Mais pendant la guerre, moi, j'ai surtout fait des destructions. Je faisais sauter les ponts. Ouais.
Vous étiez dans la résistance ?
Ah bah après, j'étais dans la résistance en Allemagne. J'ai été déporté 3 ans en Pologne.
Oh. Eh
bah. On avait organisé la résistance dans les camps de prisonniers.
Oui.
Alors ils nous ont pris et nous avons été déportés. Nartenneuvel. Vous savez ce que ça veut dire ?
Non.
Nuit et brouillard, ceux qui ne revenaient pas.
Eh ben.
Oui.
Mais vous êtes revenu.
Ben, on est revenu parce que les Russes avançaient tellement vite. J'étais à 30 km de Auschwitz-Soyer, en Pologne. Les Russes ont fait une avance foudroyante et il a fallu nous évacuer. Ils n'ont pas voulu nous laisser comme ça. Alors. Ils nous ont évacués. Puis après, on est revenu en Allemagne dans les camps. Pendant quelques mois, puisqu'après la guerre, c'est terminé. Hein.
Vous étiez officier ?
Non, j'étais adjoint-chef, sous-officier.
Oui, mais enfin, vous n'étiez pas simple soldat, donc vous étiez...
Ah non, j'étais adjoint-chef.
Vous n'étiez pas dans les camps basiques. Je sais qu'il y avait des camps pour les officiers, et puis...
Ah oui, mais pour les sous-officiers, il n'y en avait pas. Ils étaient avec la troupe.
Ah
oui ? Oui.
Pas de chance. Vous avez dû voir le plus dur de la guerre.
Le plus dur, ça a été en Pologne quand j'ai été déporté. Ouais. Parce que le reste, la guerre, moi, ça s'est passé comme ça. La guerre s'est déclarée. J'avais un secteur où j'avais miné les ponts moi-même. J'avais miné les ponts avec mes équipes. Alors pendant la guerre, vous savez bien comment s'est passée cette guerre. Il y a eu de l'inaction pendant presque un an. Hein, on n'est pas bougé. Alors là, moi, j'avais mon secteur de mine. J'avais visité mes camps. Et mon PC se trouvait dans la ligne Maginot, dans les gros ouvrages. Mais dans notre secteur, j'étais entre Lauterbourg et Wissembourg. À part des coups de main, on n'a pas fait grand-chose. Puis ici, des destructions. Hein. Moi, j'ai fait sauter tout le coin là-bas.
Ouais.
Enfin, sous les ordres de mes supérieurs. Hein. Sous la pression, à la fin, il n'y avait plus qu'un pont qu'on a fait sauter à Souffleneuve. Mais là, on voyait les Allemands qui venaient, alors on a fait sauter.
Et en Pologne, vous étiez dans les camps de travail, pas comme
on ne travaillait pas, on était là. Oh, pensez-vous, on ne pouvait pas travailler, on n'avait plus de force. Moi, je faisais 100 kilos quand la guerre est venue, et quand j'étais libéré, après avoir passé quelques temps en camp normal, je faisais 52 kilos. Alors, pensez, l'armée, justement, m'a balancé. On n'a plus voulu de moi.
Mais qu'est-ce que vous...
Et pendant 2 ans, j'ai rien pu faire. J'étais en retraite, mais je ne pouvais pas manger, surtout. Tout était rétréci.
Ah ben, j'imagine, oui, mais ils vous ont rien donné à manger.
3 ans, ben oui, mais je ne pouvais pas manger. Je ne buvais que du lait caillé.
Non, mais quand vous étiez en camp, ils ne vous donnaient rien à manger. Ils vous ont affamé.
Si, un bol de soupe, quoi. Fallait vivre avec ça.
Enfin, on a beau le savoir, mais de rencontrer quelqu'un comme vous, puis d'avoir des chiffres, je veux dire 100 kilos, 52 kilos,
c'est... Ah oui, oui.
Heureusement que vous étiez bien portant avant.
Ah, ben j'étais solide, oui. Quand c'est revenu après, ben, je suis encore du monde aujourd'hui. Et je travaille, hein, moi je reste pas inactif. Je fais de la vannerie, oui, je fais des... Je récolte mon osier, puis j'ai 2 grands jardins.
Oui.
J'ai des boules.
Eh ben.
Les poules, c'est pour les œufs de mes enfants, hein, parce que moi, il ne faudrait pas de... Puis si, ça mange les restes, ça entretient mon verger.
Oui.
C'est utile pour moi.
Mm-hmm. Donc, vous avez été marié pendant 60 ans ?
Oui. On allait fêter le 60e anniversaire, faire les noces de diamants.
Oui.
Ma femme est morte, décédée 20 jours avant.
Oh, c'est triste.
Oui. Oh, elle était paralysée depuis 6 ans.
Ah.
C'était une délivrance pour elle parce que elle avait fait d'abord une attaque, paralysie totale, et puis après elle s'est remise à faire des petites paralysies locales, vous voyez. Alors elle faisait des fausses routes parce que sa gorge s'était paralysée.
Elle avait une maladie ?
Ben non, mais les fausses routes, au lieu d'aller dans l'estomac, la nourriture va dans les poumons.
Non, mais vous disiez elle était paralysée, c'était...
Ah ben oui, d'une attaque, elle a fait une attaque.
Ah oui, ça, ça pardonne.
Elle était en bonne santé.
Oui. Puis,
quand elle a fait l'attaque, elle avait 75 ans. C'était le jour de ses 75 ans.
Elle était jeune.
Ah ben, 75 ans. Mais elle a vécu comme ça jusqu'à 6 ans et demi paralysée.
Oui.
Alors après, elle est morte.
Ça ne devait pas être facile, même pour vous.
Ah ben, j'ai toujours gardé. Elle était diabétique. Le diabète s'était déclaré en vieillissant, oui. Comme elle était diabétique, il fallait la forcer à un régime assez difficile. Elle ne pouvait pas manger tout, surtout que c'était comme moi une grande et forte femme. Elle avait bon appétit.
Ouais.
Alors, elle ne voulait pas qu'on prenne quelqu'un. J'ai toujours été obligé, moi, de la mettre dans un fauteuil. J'avais passé 80 ans, hein.
Eh oui.
Alors, pour soulever une dame qui faisait 85 kilos...
Oui, vous n'êtes pas bien épais.
J'étais inerte, heureusement que j'étais fort.
Ouais.
Maintenant, j'ai encore de la force, mais j'étais beaucoup diminué l'an dernier. J'avais un cancer de l'intestin.
Ah oui, ce qui explique que vous devez manger à...
Oh, ben maintenant, on m'a rétréci l'intestin. Ils ont enlevé tout, mais ça s'est bien passé. J'ai pas eu de chimio, pas de radio, après. Ils ont enlevé, ils m'ont dit, vous êtes tranquille, on a tout enlevé. Mais il a fallu enlever un grand bout d'intestin.
Oui. Ah bah vous n'avez pas eu de chance, décidément.
Oh bah ça...
Après la guerre, vous ne pouviez pas manger, maintenant vous pouvez
Oui, mais après la guerre, ça n'a duré que 2 ans, ma fringale éternelle. Après, c'est revenu. Petit à petit, j'ai pu remanger de nouveau, et puis après, j'ai mangé normalement. Hein.
Oui, quand même. Mais bon. Alors, vous avez eu des enfants ?
Ah,
vous
oui,
m'avez dit tout à l'heure.
3 filles, oui.
3 filles ?
Oui, dont une est décédée.
Oh.
Il y avait une, c'était l'aînée, et les autres, c'était des jumelles.
D'accord.
Alors, les jumelles restaient là, mais l'aînée a attrapé un cancer, elle est morte à 40 ans.
Mais elle est morte jeune.
Oui.
D'accord. Et vos jumelles, elles ont quel âge maintenant?
Ah, ben les jumelles, elles ont 47 ans.
D'accord. Et elles ont des enfants?
Il y en a une qui a 3 enfants, 3 garçons.
D'accord.
Elle est fonctionnaire au Télécom.
Mm-hmm.
Et puis la deuxième est directrice d'école à Vendeuvre. L'école Paul Bert de Vendeuvre. Elle n'a qu'une fille, celle-là.
D'accord. Directrice d'école. Et votre fille qui est fonctionnaire, elle travaille loin d'ici?
Celle qui est fonctionnaire, ben non, si, elle travaille toutes les deux dans l'agglomération.
D'accord.
Une à Vendeuvre, l'autre à Nancy.
Vendeuvre, vous écrivez ça comment?
Oh, attendez, voir. V-A-N-D-O-E dans l'eau, U-V-R-E.
D'accord. C'est dans le coin aussi?
Ben, surtout, c'est un faubourg de Nancy.
D'accord. Je connais pas du tout.
Ah non, je sais pas Nancy du tout.
J'ai visité Nancy avec Karine, la fille de Josiane.
Ah oui.
Mais on est resté dans le cœur de Nancy, le Nancy historique.
Ah oui, oui.
Mais je connais pas autour.
Ah ben ça, c'est la banlieue, c'est la grosse banlieue. Il y a 60 000 habitants, je crois, à Vendeuvre.
Ah oui.
Oh, c'est la plus grosse banlieue de Vendeuvre.
D'accord, de Nancy. Et vous-même, vous avez fait des études?
Oh, mon certificat d'études. Enfin, on appelait ça le premier ordre. Ça n'existait qu'en Meurthe-et-Moselle.
Ah bon, oui, j'allais dire, j'ai jamais entendu parler.
Non, parce que le certificat d'études, ça existait aussi, mais on faisait un an de plus que les autres, et on passait un deuxième concours qu'on appelait le premier ordre.
D'accord.
Alors, c'était un peu plus difficile. Par exemple, nous, on avait appris à extraire des racines carrées. Chose qu'on ne sait même plus faire aujourd'hui. Hein.
C'est vrai.
J'ai mes fils qui sont bacheliers, mes petits-fils qui sont bacheliers, ils ne savent pas. Il y en a un qui va être ingénieur, il ne sait pas extraire une racine carrée. Maintenant, il y a la calculette, on fait ça. Tandis que dans le temps, nous, on avait appris tout ça. Hein. Et puis le français, vous savez, c'était dur la dictée des Français. Aujourd'hui, pour le bac, ils n'ont pas une dictée plus difficile qu'on avait, nous.
Non. Bah, d'ailleurs, moi, je vois, je travaillais à l'université. Les étudiants savent pas toujours écrire, hein,
oh,
et pourtant.
Ben non.
Et pourtant.
Oui.
Vous parlez d'autres langues que le français?
Oh, ben maintenant, j'ai oublié l'allemand, mais après la guerre. J'ai habité à Strasbourg pendant 15 ans.
Ah oui.
Alors, j'avais appris, et puis j'étais prisonnier 5 ans. Au moins, les Allemands, je courais. Je parlais couramment l'allemand, mais d'avoir cessé il y a 40 ans, 50 ans, j'ai pu parler du tout. Je ne sais plus, je comprends même plus. Et ma femme, c'est pire, elle est née à Strasbourg. Quand elle est venue, comme moi, elle avait 6 mois, elle est venue à Strasbourg. Elle a fait ses études, elle était institutrice, elle parlait l'allemand et le français, elle enseignait l'allemand était obligatoire. Et puis en dernier, des fois, on mettait le truc pour... Je comprenais encore mieux qu'elle, moi. Elle avait totalement oublié, totalement.
Bah, peut-être aussi parce que c'était des mauvais souvenirs, hein.
Oui, puis je sais pas, du moment... Vous ne parlez plus du tout, ben vous oubliez la langue.
Oui, c'est vrai. Hein.
Ah oui.
Mais peut-être si vous retourniez un peu dans le pays, ça...
Oui, ça irait vite. Hein. Bon, des fois, je m'amuse à regarder un peu. Tiens, ça revient, je ne peux pas suivre, mais ça revient quand même un peu.
Ouais.
C'est pour parler que c'est plus difficile.
Ouais.
Mais pour comprendre, ça manque. Mais je comprends mieux à l'oreille qu'à l'écrit, hein, parce qu'à l'écrit, je parlais l'allemand, je ne savais pas l'écrire. Hein.
Bah oui, c'est vrai.
Ben, on le parlait, on voyait rien d'écrire. On parlait des inscriptions allemandes qu'il y avait dans les camps. Tout le monde savait s'y relire, ça.
Roueux.
Oh, oui, oui.
Et sinon, il y a un patois dans la région?
Ah, ici, il y avait le patois lorrain, oui.
Et vous le parlez?
Oh, maintenant, c'est fini. Personne ne le comprend plus.
Mais vous le compreniez?
Oh, ben, bien sûr, oui, mais comme on ne l'entend plus...
C'est dommage, ça.
Ah, oui, c'est dommage, les noms.
Et on n'essaie pas de l'enseigner dans les écoles?
Ben, non, c'était défendu. Nous, l'instituteur nous défendait de parler le patois. C'était défendu. C'est vilain comme tout, ce patois. Le patois lorrain, c'est un patois grossier, vous voyez. Pas grossier, je ne vais pas dire de grossièreté, mais...
Non,
je comprends. Grossier de phrases, de machin.
Et ça ressemble à l'allemand?
Il y avait des mots d'allemand dedans, oui. Il y en avait quelques-uns, comme tout le monde. Comme pour boire, on disait pas pour boire, nous, en patois, on disait tringle. Les Allemands, ils disent pareil. Ils le prononcent un peu autrement, mais tringle, ça veut dire la même chose.
D'accord.
Il y a beaucoup de mots d'allemand, pas beaucoup, mais enfin, il y en a, quoi.
Ça ressemble plus à l'allemand qu'au français.
Ah oh non, non, non. Non. Ah non, 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 ça ressemble plus au français qu'à l'allemand.
D'accord.
Oui. Seulement, nous étions près de la frontière. Hein. L'ancienne frontière en 70, elle passait à Foucret. Ouais. Et puis un peu au-delà de Nord-Berménil, c'est-à-dire à Vol d'Oiseau, une douzaine de kilomètres.
Ah oui, c'est tout à côté.
Ah oui, oui.
Ah bah oui.
Mais moi, quand je suis né, c'était encore l'Allemagne, naturellement, puisque je suis né en 12.
Mm-hmm.
Mais en 14, l'Alsace-Lorraine est redevenue française. En 18, quoi, pas en 14.
Oui, 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 oui.
Et j'ai mon grand-père, qui était de Buréville, un pays à côté, là. Lui était garde forestier là-bas. Quand les Allemands sont venus, il n'a pas voulu rester. Alors il est revenu ici, il a repris une place ici.
Mmh.
Mais c'est les frères, les sœurs aînées de mon père, elles étaient nées là-bas, à Foucret, en Allemagne. C'était l'Allemagne en ce temps-là.
Oui. Mais ils se sentaient français quand même, tout ça.
Ah bah oui, les parents, ma grand-mère était d'Augéville, de mon pays, et mon grand-père était de Buréville, à côté, deux pays qui se touchent. Lui, il avait été là-bas par des circonstances assez bizarres. Son frère aîné avait sauvé la vie du général de Galifet. Le général de Galifet, c'était un homme politique, du temps du général Boulanger. Alors, il avait sauvé la vie, il a crié au secours, on l'attaquait pour le dévaliser, on lui avait planté un couteau derrière. Alors, lui, il était maître d'armes, qu'on appelait. Ça n'était pas un grade, c'était une fonction dans l'armée. C'était entre le deuxième classe et le caporal, vous voyez. Oui. Seulement, c'est des gens qui enseignaient le sabre, ils avaient fait des stages, et ils enseignaient le maniement du sabre. Il était en ville avec son sabre, il a entendu, il a couru tout de suite, il a embroché un des deux gars, puis l'autre s'est sauvé. Enfin, il a été repris après, parce qu'il n'était que blessé, l'autre, il a donné le nom, son complice.
Oui.
Alors, le général, il ne s'est rien passé pour lui, pendant la police l'a interrogé, ainsi de suite, c'était fini. Mais le général, quand il s'est remis de sa blessure, il a dit, moi, je veux voir cet homme-là qui m'a sauvé la vie. Alors, on lui a amené tout de suite, pensez, un général, et puis homme politique en plus.
Oui.
Il avait de l'influence, on lui a amené, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, il dit, je suis de la classe, mon général, je rentre chez moi. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je suis vanier, bûcheron. Oh, ben, c'est pas un métier qui gagne, non, c'est difficile. Il dit, qu'est-ce que vous ne voudriez pas être fonctionnaire? Oh, ben, j'aimerais bien être garde forestier. Il a dit, vous savez lire et écrire? Oui, j'ai mon certificat d'études. Eh ben, alors, ça y est, pas d'histoire, je vais donner un coup de fil à mon beau-frère qui était ministre de l'Agriculture, je sais pas quoi. Alors, il a dit, oui, mais c'est pas tout, j'ai quatre frères. Oh, ben, tous les quatre, allez. Alors, tous les quatre, et lui, ça faisait cinq, tous les cinq étaient garde forestier. Mais alors, le ministre de l'Agriculture, enfin celui qui s'occupait de ça, il a dit, je peux les nommer, mais il faut qu'ils aillent dans le coin occupé où on en manque, là-bas, en Alsace. On les nommera à la frontière, pas loin. Alors, ils étaient tous à la frontière. Il y avait un à Indre-Basse, un à Foucret, je ne me rappelle plus les noms, tous les noms des pays de là-bas, quoi. Alors, quand la guerre est venue, elle a été perdue pour les Allemands, on est redevenu français, seulement sur les cinq. Il y en avait deux qui étaient mariés avec des filles là-bas, qui étaient natives de là-bas. C'était des grosses cultivatrices. Alors, ils n'ont pas voulu abandonner leurs femmes, hein, parce que les femmes ne voulaient pas venir ici. Puis leur terre était là-bas. Alors, ils sont restés chez les Allemands. Alors, naturellement, ils étaient mal avec les trois qui étaient revenus. C'était ceux d'ici qui ne pouvaient plus les voir. Vous êtes plus boches que français. Mon père disait, c'est malheureux, j'ai des oncles, je ne les connais pas, moi.
Oui.
Ben oui, ils ne pouvaient pas les voir, hein.
Bah, il était bien reconnaissant, en tout cas, cet homme politique.
Ah, oui, oui.
Ça, on peut pas dire.
Ah, oui. Mais c'était le général de Galifet.
Ouais.
Mais il était pas général seulement, il faisait de la politique.
Ouais. Et le patois, vous avez pas l'occasion de le parler, même avec des vieilles personnes?
Oh, bah, ici, il y en a plus qui comprennent.
Ah bon?
Il y a encore moi, peut-être, deux ou trois, si, il y en aura encore quelques-uns, mais... Il y en a qui n'aiment plus le parler.
Et c'est la première langue que vous ayez appris, vos parents?
Oh non, mon père ne voulait pas. Puis j'avais un oncle qui était instituteur, qui lui le parlait couramment, mais il ne voulait pas non plus qu'on l'apprenne. Seulement quand j'ai été à l'école avec les autres gosses, j'ai parlé le patois, comme tout le monde. Puis c'était défendu. Alors dès qu'on était dehors, dans la rue, on parlait, hein. Tout ce qui est défendu pour les enfants.
Ah oui, on aime bien. Hein.
Ah oui.
J'aimerais bien parler un petit peu de vos parents.
Ah ben.
Alors, votre papa, il est né quand?
Oh, attendez, en quel... je me rappelle bien l'année, c'est en quel... En 1881.
D'accord.
Et ma mère, en 1891, elle avait 10 ans de moins.
D'accord. Et ils sont nés tous les deux ici, à Augévillers?
Ah ben, mon père est né à Fréménil, comme moi.
Mm-hmm.
Ma mère est née à Réclonville. Vous n'avez pas entendu parler de Réclonville?
Je connais le nom, mais...
C'est à 200 mètres d'Augévillers, depuis la dernière maison.
D'accord.
Et Fréménil, c'est à 2 km.
Ça va, c'est pas loin.
Non.
Fréménil, vous l'écrivez comment? Parce que je l'ai pas écrit
pareil. F-R-E.
Oui.
M-E-N-I-L.
M-E-N-I-L. Oui, j'avais pas du tout écrit comme il fallait. Voilà. Et votre papa faisait quoi comme métier?
Alors, mon père, comme tout le monde, il était vannier. Hein, mais la vannerie, ça rapportait pas. Alors, quand il s'est marié, il est devenu entrepositeur de bière.
Ah oui?
Alors, il recevait la bière en tonneau, et puis il la mettait en bouteille, et il la vendait. Mais quand il a commencé... C'était uniquement pour fournir le fort de Manonvillers. Vous avez entendu parler, peut-être. Eh bien, il y a 5-6 kilomètres d'Oiseau, il y a un fort où il y avait peut-être 1500 soldats, je ne sais pas. Enfin, lui, il livrait tous les jours 1000 bouteilles de bière dans ce fort. Tous les jours, dimanche.
Et il y avait combien de soldats là-dedans?
Entre 1000 et 1500, je ne peux pas vous dire exactement.
D'accord. Et vous dites entrepositaire.
Entrepositaire, oui. Il recevait la bière en tonneau.
Oui.
Et il la mettait en bouteille et il l'amenait là-bas.
Je ne connaissais pas le terme, vous voyez?
Ah non?
J'apprends des choses.
C'est un entrepositaire de bière. Il y en avait partout à ce moment-là.
Oui.
Pour toutes les brasseries, il y avait des entrepôts partout. Alors, celui qui avait un entrepôt, c'était l'entrepositaire.
Ici, c'est plus bière que vin. Hein. Les gens boivent plus de bière que de vin.
Bah, maintenant, les jeunes, ils se mettent plutôt au Coca-Cola ou machin comme ça.
Sans alcool.
Je dirais que moi, je bois du Coca-Cola aussi. On est toujours sur la table.
Puis c'est bon pour la digestion en plus.
Oui. Et puis j'aime bien, c'est pour ça.
Oui, moi je vous comprends, j'aime bien aussi.
Je suis pas comme tout le monde. Moi je vais manger au Big Mac, comme j'appelle ça.
Ah, au McDo. McDonald's.
Au McDonald's.
Oh, bah,
ils n'ont jamais vu un vieux bonhomme de mon âge.
Et vous aimez?
Ah, moi j'aime bien.
Moi aussi j'aime bien.
J'aime bien. Ils ont de bonnes frites. Et puis, ils ont de bons desserts, c'est la glace, mon dessert.
Puis les hamburgers sont souples, je veux dire, si on a des problèmes de mâchoire ou quoi, ça se mange tout seul.
Ah oui, ça se mange tout seul.
Ah, bah ça fait plaisir de voir quelqu'un qui...
Oh, mais ils en ont pas beaucoup, hein. Je suis le seul, j'ai jamais vu un homme. S'il y en a qui sont vieux, qui ont 70 ans, mais n'ont pas 93 comme moi.
Oui. Bah c'est bien, vous n'êtes pas fermé à la nouveauté.
Oh, bah non, puis j'aime bien les jeunes, moi.
Oui. Oh, bah vous avez raison, ça conserve, je trouve, de continuer à fréquenter la jeunesse.